Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Une enquête pour incendie volontaire ouverte à Nantes après l'incendie de la cathédrale ce matin. Incendie qui a totalement détruit l'orgue. Le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place cet après-midi. Plusieurs milliers de personnes ont marché aujourd'hui à Persan, dans le Val d'Oise, 4 ans après la mort d'Adama Traoré lors d'une interpellation des gendarmes. Et en parallèle, l'enquête est également relancée. Dans ce journal également, les pays européens réunis en sommet, ils peinent à s'entendre sur un plan de relance pour l'économie. Plusieurs pays rechignent à sortir le chéquier. Nous retrouverons notre correspondant à Bruxelles. Et puis la crise du Covid-19 qui continue de secouer la planète. L'Amérique est le continent le plus touché. L'Europe craint une deuxième vague. Nous entendrons un épidémiologiste à ce sujet et nous irons aussi à Cuba où les masques sont obligatoires depuis début mars. Enfin, que s'est-il passé sur Twitter cette semaine? Le réseau social a subi un piratage de grande ampleur. Explication en fin de journal. Après Notre-Dame de Paris, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes était en proie aux flammes ce matin. L'incendie a été maîtrisé. Jean Castex s'est rendu sur place, accompagné de la ministre de la Santé, de la Culture, Roselyne Bachelot, et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On écoute Jean Castex sur place tout à l'heure.
Je voulais manifester à l'endroit des Nantaises et des Nantais et de la communauté catholique de cette ville la solidarité de la nation au moment où ce drame frappe cette belle ville, cette grande ville de Nantes. Place désormais d'une part à l'enquête sur laquelle, à ce stade, je ne dispose d'aucun élément précis d'information. Place ensuite à la reconstruction que je souhaite la plus rapide possible et à laquelle l'État prendra toute sa part.
Un incendie qui pourrait donc être d'origine criminelle. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour incendie volontaire. Léo Téchère.
Oui, parce que ce sont 3 incendies qui se sont déclarés en même temps ce matin. 2 au rez-de-chaussée, à gauche et à droite de l'hôtel. Et un 3e qui a fait beaucoup de dégâts au premier étage. Le grand orgue qui datait de 1621 et qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale et à l'incendie de 1972 n'est plus qu'un tas de cendres à l'heure où je vous parle, complètement détruit par ces flammes qui ont également fait exploser la rosace entre les 2 tours. Les enquêteurs de la police judiciaire privilégient donc effectivement la piste criminelle. Cet après-midi, ils ont fait le tour de cette cathédrale à la recherche de traces d'effraction. Ils ont interrogé les riverains et l'organiste qui répétait encore hier soir. Puis ils sont entrés dans la cathédrale encore enfumée pour établir les premières constatations. En ce moment, des dizaines de pompiers sont toujours sur place. On entend le bruit des tronçonneuses qui déblayent des poutres calcinées et protègent ce qui peut encore l'être, des tableaux, des statues et le tombeau du duc François II de Bretagne, tous épargnés.
Léo Téchère. Et cet incendie n'est pas sans poser des questions de sécurité, comme le souligne Alexandre Gadi, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne.
Il y a un autre problème qui indépendamment de la question de l'incendie criminel, me frappe à nouveau dans l'affaire nantaise. C'est quand même qu'on entre très facilement sur les monuments historiques, qu'ils soient en travaux ou pas. On n'est pas encore arrivé à une vraie culture de la sécurité, sécurité incendie, parce qu'il y a beaucoup de monuments qui brûlent en France chaque année, les monuments historiques, et sécurité intrusion. Ça, c'est vraiment une culture, à mon avis, qui n'est pas assez développée. Et si c'est bien un incendie criminel, ça veut dire que c'est pas le premier et peut-être malheureusement pas le dernier. On va pas empêcher les gens d'avoir des idées folles, mais on peut essayer de mieux protéger des intrusions abusives les monuments français.
Alexandre Gadi au micro de nos confrères de France Info. C'était il y a 4 ans, le 19 juillet 2016. Adama Traoré mourait lors d'une interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise. 4 ans plus tard, l'enquête pleine de rebondissements n'est toujours pas bouclée. Les juges d'instruction ont même ordonné 14 nouveaux actes d'enquête. Aujourd'hui, la marche était co-organisée par les proches d'Adama Traoré et les écologistes d'Alternativa. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présents, Cyril Ardo.
Oui, une foule nombreuse pour réclamer justice pour Adama, plus nombreuse que les autres années, me disaient plusieurs manifestants. Cela s'explique sans doute par cette invitation lancée, vous l'avez dit, aux militants écologistes présents dans le cortège, tout comme quelques gilets jaunes et des proches aussi d'autres personnes tuées au moment ou en marge de leur interpellation. Manifestation cet après-midi dans un contexte particulier, alors que les mobilisations antiracistes et contre les violences policières se multiplient depuis quelques mois dans le monde et notamment depuis la mort de l'américain George Floyd. En tout cas, c'est une foule déterminée, une foule soudée qui a défilé aujourd'hui dans les rues de Persan et de Beaumont-sur-Oise. Foule qui a également défilé dans le quartier où vivait Adama Traoré pour scander qu'ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne sauront pas exactement ce qui s'est passé ce 19 juillet 2016. Sur le plan judiciaire, le combat continue également. La sœur d'Adama, Assa Traoré, a pris la parole au cours d'un point presse avant le début de la marche. Elle demande la récusation de la juge en charge du dossier et la requalification des faits en homicide volontaire.
Merci Cyril Ardo, vous étiez en direct de la marche. Première rencontre physique depuis le début de la crise sanitaire pour les dirigeants de l'Union européenne. Ils sont réunis en sommet aujourd'hui pour tenter de s'entendre sur un plan de relance économique. Alors pas d'avancée majeure ce matin et pour cause, plusieurs pays se montrent récalcitrants. Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Résultat, une nouvelle proposition est désormais sur la table. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Ces pays surnommés les frugaux sont la pierre d'achoppement de ces négociations financières, avec comme figure de proue le premier ministre néerlandais Mark Rutte.
Oui, effectivement, Mark Rutte qui s'est imposé comme chef de file non officiel de ce groupe des frugaux. C'est d'ailleurs celui qui est le plus rompu aux négociations européennes. C'est le doyen du groupe. Il est depuis 2010 premier ministre des Pays-Bas, ou plutôt ministre-président, puisque c'est l'appellation en néerlandais. On pense aussi que dans ce groupe, qui comprend désormais en plus la Finlande, outre l'Autriche, la Suède et le Danemark, Mark Rutte est peut-être celui qui a d'une part le plus d'envergure européenne internationale et d'autre part celui qui est le plus pragmatique pour ce libéral de 53 ans qui a réussi à constituer trois coalitions consécutives avec des partis très différents. C'est d'ailleurs une fierté que ce pragmatisme qui correspond à la psyché nationale des Bataves. Aux Pays-Bas, on préconise l'économie, la modestie, la bonne gestion. Et Mark Rutte est d'ailleurs arrivé à Bruxelles avec des engagements clairs pris devant le Parlement pour exiger des garanties. Et ces garanties, les Pays-Bas sont loin d'être les seuls à les réclamer, même si Mark Rutte est le seul à avoir expressément demandé un droit de veto sur les plans de relance des pays bénéficiaires, en plus du droit de regard que veulent les autres pays frugaux. Mark Rutte est pas aussi isolé que veulent le laisser penser les partisans de la version originale du plan de relance. Mais en tout cas, la stratégie des frugaux fonctionne puisque le compromis imposé en fin de matinée par Charles, proposé en fin de matinée par Charles Michel prévoit de réduire la part des subventions au bénéfice des prêts et d'augmenter les rabais budgétaires pour les pays frugaux.
Merci Pierre Benazé, vous étiez en direct de Bruxelles. Et si le sommet européen justement était la première rencontre physique des chefs d'État et de gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, le G20, lui, se déroule à distance à partir d'aujourd'hui. Une réunion virtuelle des ministres des Finances et chefs de banque centrale. Réunion sur la reprise de l'économie mondiale. Des appels notamment à alléger les dettes des pays les plus pauvres se sont fait entendre. Le point sur la pandémie de Covid-19. Plus de 596 000 en sont morts dans le monde. Plus de 14 millions de cas ont officiellement été diagnostiqués. Les États-Unis restent le pays le plus touché, à la fois en nombre de morts et en nombre de contaminations. Suivent le Brésil, le Royaume-Uni, le Mexique, puis l'Italie. En Europe, le Premier ministre Jean Castex dit surveiller de près la situation en Espagne, où près de 4 millions de personnes ont été priées de rester chez elles à cause d'une hausse des cas. La frontière franco-espagnole est rouverte depuis le 21 juin. En France également, la circulation du coronavirus s'accélère. Plusieurs dizaines de nouveaux foyers, des appels en hausse à SOS Médecins et un taux de reproduction du virus qui atteint les 2,62 en Bretagne, c'est-à-dire que près de 3 personnes contaminées pour une personne malade. L'ARS de Bretagne et Santé publique France tempèrent. Selon eux, ces chiffres en hausse ne signifient pas qu'il y a une explosion de cas, mais la vigilance doit être de mise, selon Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste de la santé publique et à la tête de Public Health Expertise. On l'écoute.
On voit qu'il y a une accélération de la circulation du virus qui était assez prévisible du fait qu'on a levé les contraintes sur sa circulation. Et je pense qu'il faut quand même se dire que si jamais la situation reste celle qu'elle est aujourd'hui, on risque d'avoir une accélération continue et d'évoluer inévitablement vers des situations où on aura d'autres mesures à mettre en place. Donc je suis d'accord pour dire que pour l'instant, c'est pas catastrophique. Mais ce qui compte, c'est les dynamiques. Et on est quand même dans une dynamique d'accélération. Il y a plein de chiffres, il y a les appels à SOS médecins, il y a quand même ce R effectif qui augmente. Je pense que ça doit être un signal d'alerte et dire qu'il faut qu'on fasse plus pour éviter d'avoir à faire beaucoup plus dans quelques semaines. Il faut dire la vérité et je pense qu'il faut éviter d'alterner entre ça y est, c'est terminé et attention, ça recircule. Et le problème, si on ne dit qu'une partie de la vérité. Et si on est trop subjectif dans ce qu'on dit, on risque d'alterner en permanence entre des phases où les gens sont trop rassurés et des phases où les gens sont paniqués. Donc moi, je suis plutôt pour quelque chose d'assez linéaire, où on dit clairement que ça recircule un petit peu plus, qu'on est sans doute capable de rattraper la situation avec des masques, par exemple, portés dans les lieux clos, mais qu'il faut quand même rester vigilant. Je pense que ça n'a pas de sens de dire c'est grave, c'est pas grave, il faut s'inquiéter, il faut pas s'inquiéter, ça circule plus. Et donc pour l'instant, il faut qu'on fasse plus pour freiner la circulation, sinon on va être embêté dans quelques semaines.
Et le gouvernement publiera lundi ou mardi le texte précisant l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos. Une mesure très attendue, beaucoup de professionnels estiment que la date du 1er août était bien trop tardive. Alors, porter un masque ou pas, il y a d'autres pays où la question ne se pose pas. À Cuba, par exemple, le port du masque est obligatoire depuis le début de l'épidémie. Les Cubains, adultes comme enfants, sont masqués depuis fin mars et au total, sur l'île des Caraïbes, l'épidémie de coronavirus a fait 87 victimes. Cuba parvient également aujourd'hui à détecter des cas asymptomatiques. Les autorités ont déclaré l'épidémie sous contrôle, mais le masque reste encore obligatoire. À Havane, une correspondance de Dominique Piron.
Masque pour tous et tout le temps, même le président cubain le porte quand il prononce seul un discours à la télévision. Dans son cabinet de consultation, où la chaleur est étouffante, la docteure Yvonne Pérez-Lapinel, derrière son masque en tissu vert, considère que cette mesure a permis d'éviter la contagion à grande échelle.
Dans la rue ou dans les transports publics, si tu éternues, tu te touches le visage. Tu vas contaminer toutes les surfaces que tu vas toucher. Et donc d'autres personnes seront exposées au virus.
Pas un mot sur l'efficacité du masque en tissu. Issu seul modèle disponible sur l'île et fait maison pour la plupart. Mais de nombreux Cubains approuvent le port du masque obligatoire et se sentent protégés. Ils évoquent la discipline cubaine pour lutter contre l'épidémie. D'autres trouvent cette obligation appliquée au pied de la lettre par la police exagérée. Le jeune William Mesa Oliva avait à peine terminé sa cigarette quand la police l'a embarqué au poste avant de lui mettre une amende.
Ici, il n'y a pas de débat et la loi s'applique pour tout le monde. Tu es obligé de la respecter, sinon tu passes vraiment un sale moment.
Ne pas porter de masque ou mal le porter est un délit de propagation d'épidémie, passible d'amende et de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Des dizaines de cas de privation de liberté sont dénoncés par des médias indépendants.
Domiti Piron à La Havane. Les États-Unis perdent une figure de la lutte non violente contre les discriminations raciales. John Lewis est mort à l'âge de 80 ans. Ancien compagnon de Martin Luther King, il était aussi aux côtés de Barack Obama. Il était membre du Congrès américain depuis 1986. Et récemment, malgré son cancer, il avait participé au mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd à Minneapolis. L'Amérique déplore la disparition d'un des plus grand héros de l'histoire américaine, a réagi Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Aux États-Unis, Twitter présente ses excuses quelques jours après avoir été victime d'une impressionnante attaque informatique. Mercredi dernier, en effet, les comptes d'une poignée de personnalités parmi les plus influentes, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden ou encore Barack Obama, ont été piratés. Des messages publiés sous chacun de ces profils invitaient les internautes à envoyer des bitcoins, la crypto-monnaie la plus célèbre, avant d'être effacée. Et il s'avère que l'opération a été rendue possible par la complicité de plusieurs employés du réseau social. À New York, Loïc Louis.
Nous sommes embarrassés, déçus et avant toute chose, nous sommes désolés. Nous savons qu'il nous faut regagner votre confiance. Ces excuses tardives, Twitter les a publiées hier soir sur son blog avec des détails sur l'une des attaques numériques les plus spectaculaires de mémoire de hacker. Le réseau précise que 130 comptes ont été ciblés par les pirates avec succès pour 45 d'entre eux. Et tout cela surtout grâce à l'utilisation d'outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne. En d'autres termes, dit Twitter, les malveillants ont manipulé avec succès un petit nombre de nos employés sans préciser l'identité des premiers ou des seconds. Si cette poignée de comptes face aux 300 millions d'usagers mensuels de la plateforme ne pèse pas lourd, le coût porté pour une simple arnaque au bitcoin est énorme. Barack Obama, Elon Musk, Joe Biden ou Kanye West notamment ont été visés avec succès. A priori, les données de ces comptes sensibles n'ont pas été téléchargées, mais les enquêtes en interne ou par le FBI se poursuivent. Et l'affaire, quoi qu'il en soit, n'est franchement pas rassurante à presque 3 mois de la présidentielle. Elle rappelle à quel point les réseaux sont aussi influents que vulnérables.
Loïc Loury. La chaleur s'installe presque partout en France. La soirée sera calme et sèche. Demain matin, le soleil s'imposera partout, sauf le long de la Manche, encore un peu sous la grisaille. Les températures grimperont rapidement. Il fera en matinée 13 à Brest et à Lille, 16 à Strasbourg et Lyon, 18 à Bordeaux, 17 à Paris et 20 degrés autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau et Jérémy Kaufmann à la technique.